Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Ce soir au programme, votre capsule positive du lundi et un reportage pensée locale en partenariat avec la FRAP. Mais aussi et surtout, nos deux invités du soir de Justice Climatique Angers, mais aussi d'Extinction Rébellion, mais aussi de Greenpeace 49, Étienne et Demi, qui, comme ils le rappellent si bien, sont les anges gardiens des zones humides. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo sort les rames pour la première de la saison.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Étienne et Denis, bonjour. Vous êtes tous les deux membres de Justice Climatique Angers. Étienne, vous êtes aussi, donc attention, cumul des mandats, membre de Greenpeace 49 et Demi, membre de Extinction Rébellion. Vous avez été rencontrés mardi dernier les élus de la commune de Loire-Authion pour, et je vous cite, attirer leur attention sur les menaces que fait peser le projet d'aménagement du secteur Cœur Polarité Sud à Brun-sur-l'Authion. Alors, le Cœur Polarité Sud, c'est un projet qui prévoit une continuité urbaine entre Brun et Andard. Avant de commencer, pour nos auditeurs et auditrices, une zone humide, selon le Code de l'environnement, ce sont, et je cite, et attention, c'est un peu velu, ce sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle y existe, est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Concrètement, c'est quoi les zones humides ?
Comme l'eau, c'est la vie. Eh bien, c'est une zone de biodiversité très très productive et sur laquelle vous allez trouver une grande variété de végétaux et d'animaux. Enfin, elle fait de l'épuration de minéraux, de molécules, notamment de polluants et également de substances toxiques. Donc, ce qui a pour l'environnement un effet très positif. Bon, il y a d'autres rôles, mais je ne vais pas.
Et donc, évidemment, un enjeu pour les associations, pour des associations comme les vôtres, de les préserver et de faire en sorte qu'elles se maintiennent et qu'elles soient le plus viables possible.
Oui, alors d'autant plus que les zones humides, effectivement, c'est une réserve extraordinaire de biodiversité. Et on est actuellement, on considère qu'on est dans la sixième extinction des espèces. Et nous, on considère à Justice Climatique, à Greenpeace, enfin, les différentes associations environnementales, que c'est vraiment des zones à défendre absolument et qu'on doit les sanctuariser et qu'on ne devrait même plus penser à aménager ces zones-là. Parce que les zones humides ont disparu de façon dramatique depuis maintenant deux siècles, et au XXe siècle, on a même perdu les deux tiers, en France et dans le monde, à peu près. Donc, en fait, il faudrait vraiment inverser l'ordre des priorités, c'est-à-dire se dire, les zones humides, on les protège, et tous les projets d'aménagement, on voit comment on peut faire autrement. Il y a plein de solutions. Voilà.
Alors, justement, important de les protéger, des projets d'aménagement, on peut faire autrement. Pourtant, malgré le fait qu'on puisse faire autrement, il y a des... On repose les bases. Il y a des cartes disponibles pour voir toutes les zones humides qui sont répertoriées en France. Ce sont les cartes Sigloire. Vous devez forcément connaître ces cartes. Est-ce que ces zones sont des terrains constructibles ?
Normalement, une zone humide, elle est constructible, elle est aménageable. Contrairement à certains terrains auxquels on ne peut pas toucher, une zone humide, il n'y a rien qui est dit dans le code de l'urbanisme pour empêcher un aménagement. Alors, cela dit, il y a des dispositions pour éviter d'impacter trop ces zones humides. Et notamment, il y a une procédure qu'on appelle éviter, réduire les impacts ou compenser, qui est utilisé en fonction de l'impact de l'aménagement sur la zone en question. Éviter, c'est-à-dire que on décide finalement dans le plan local d'urbanisme de ne pas l'aménager, parce qu'on considère que finalement on peut faire ça ailleurs. Réduire, ça veut dire que on va limiter beaucoup les impacts sur la zone. Et compenser, c'est dans le cas où on ne peut pas vraiment réduire les impacts et on a l'obligation de compenser une surface équivalente sur le même bassin versant pour créer une zone humide à la place ou deux fois plus importante si on est sur un autre bassin versant.
Ceci étant dit, il y a certains PLU, donc des règlements d'urbanisme, hein, les plans locaux d'urbanisme qui prévoient, alors là je crois que c'était celle que j'ai trouvée, c'était dans le PEIDOC, toute zone humide protégée et identifiée au titre d'un article L151-23 du Code de l'urbanisme ne devra ni être comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Est-ce que le plan local d'urbanisme d'Angers-Loire Métropole va également dans ce sens-là ?
Alors, en fait, nous, on s'est battu, ça fait quand même deux ans qu'on porte ce combat. Et parce qu'on a été alerté, parce que dans le nouveau PLUI, donc Plan Local d'Urbanisme Interurbain de l'Aglo, il était prévu 54 hectares de zones humides à urbaniser, à plus ou moins long terme. Et en fait, du coup, on a interpellé, nous, pendant les assises de la transition écologique, notamment, et dans le PLUI, on a interpellé pour savoir pourquoi on avait prévu ces potentiels aménagements. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de réponse, parce que le PLUI, d'abord, a été approuvé par le commissaire enquêteur. Et finalement, après de longs mois de bataille où on est allé interpeller les élus devant l'aglo, on a fait aussi une grosse action sur place avec une quarantaine de militants. Et bien finalement, il y a eu une réduction des deux tiers de ces zones humides. Mais il en reste une vingtaine d'hectares qui sont encore potentiellement aménageables. Donc pour nous, ce n'est pas une négociation. On ne se dit pas, ah ben c'est 50-50, enfin à peu près, donc vous devriez être content. Non, il y a encore des zones qui sont encore très intéressantes à protéger. Et tant qu'il y aura de la vie à sauver, on sera là.
Je voudrais faire un point de contexte global pour expliquer un peu pourquoi nous avons choisi ce type d'action.
Allez-y.
On a un contexte. Étienne l'a rappelé, la biodiversité est en chute libre, hein, je ne vais pas répéter, et on a la constatation que ces zones humides disparaissent. Pour donner un exemple local, Angers-Loire Métropole a décidé de lancer un inventaire des zones humides, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des cartes de zones humides. Il n'y a pas vraiment de carte précise de zones humides. Les seules cartes qui existent, c'est les zones humides potentielles qu'on peut identifier dans un bureau sur un ordinateur en fonction de la hauteur. Mais
donc ça, les cartes présentes sur ce site Sigloire, donc le site du gouvernement, sont fausses?
Non.
Elles sont incomplètes?
Non, il faut que je complète. La plupart sont comme ça. Mais il y a, notamment dans le cadre de l'aménagement, obligation de regarder, quand il y a un aménagement à faire, si la zone est humide ou non. Parce que c'est un critère important. Et notamment dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, Angers-Loire Métropole a commandé un recensement des zones humides aménageables, c'est-à-dire celles qui avaient été identifiées par les collectivités comme étant susceptibles d'être aménagées, urbanisées, lotissements, zones artisanales, etc. Donc là, il y a un premier recensement qui est effectif, celui-là. C'est-à-dire que le bureau d'études est allé sur le terrain, il a identifié si les zones étaient humides ou non. Mais tout le reste de la zone, c'est-à-dire celle qui n'est pas a priori aménageable, n'était pas recensée. Et c'est pour ça que Angers-Loire Métropole a lancé l'an dernier un inventaire pour toutes les zones humides sur le reste du territoire, c'est-à-dire les zones rurales, les forêts, les zones agricoles, etc.
Quel intérêt de savoir l'intégralité, de connaître l'intégralité des zones humides d'Angers et de sa région, enfin du Maine-et-Loire, si jamais elles ne sont pas constructibles?
Alors, on
en
parlait.
Un outil de recensement important pour connaître les espèces, la biodiversité.
Ce qui importe, c'est juste si on peut construire ou pas sur un territoire.
C'est-à-dire que si jamais on ne peut pas construire dessus, l'agglo pourrait se dire, de toute façon, on ne construira pas dessus, donc autant les laisser tranquilles et ne pas...
Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, je parlais de cet inventaire parce qu'il est en cours et qu'on a déjà un retour sur les premiers résultats, notamment le secteur est de l'agglomération, Loire-Authion. Le bureau d'études Élément 5 a déjà fait un repérage sur le terrain des zones humides. Il se trouve que seulement 13% des zones humides existantes avant, ou identifiées comme étant potentielles, donc pouvant tout à fait être restaurées comme zones humides, uniquement 13% sont aujourd'hui considérées comme humides. On en a perdu 87%. Alors, sur le reste du territoire, il y a d'autres zones où c'est beaucoup moins, c'est plutôt à la moitié, mais ça veut dire aujourd'hui qu'on ne part pas de zéro. On a déjà perdu pratiquement la moitié des zones humides. Mais dans la tête des aménageurs, ça n'existe plus. Les zones humides, il n'y en a plus, puisque c'est sec maintenant.
Oui, parce que les zones humides, même si ce n'est pas constructible, elles peuvent être drainées aussi pour des fonctions agricoles. Et en fait, on se retrouve des fois avec des zones humides où on nous dit « Ah bah, la fonctionnalité, elle est très médiocre, etc. »
C'est ça, parce qu'il y a des notions de zones humides fonctionnelles ou non fonctionnelles.
Et nous, on dit aussi que ces zones humides qui ont été abîmées, on peut les restaurer. Plutôt que se dire « Ah bah, de toute façon, c'est médiocre, donc autant construire dessus », parce qu'après, ça bouge, hein, les plans locaux d'urbanisme. Enfin, donc, non, au contraire. On peut très bien restaurer une zone humide, refaire des mares, déboucher les drains, etc. Donc il y a des choses à faire.
Dans le cadre du plan local d'urbanisme, Angers-Loire Métropole a considéré qu'il y avait 174 hectares de zones humides recensées autour des agglomérations. Pour eux, c'était le maximum. Non, pour nous, c'est la moitié. Il y en avait 160 ou 200 hectares qui existaient avant. Donc nous, on ne part pas du plein, là. Le réservoir est à moitié vide. Et on peut tout à fait revenir, pour retrouver les fonctionnalités très importantes des zones humides, on peut revenir sur d'autres zones humides telles qu'elles étaient avant.
En tout cas, pour préserver les zones humides, vous avez mené une action en face de la mairie de Loire-Authion, mardi dernier. Vous avez rencontré le maire, justement, pour essayer de préserver des zones humides sur lesquelles sont possiblement envisagés un aménagement pour relier les deux communes de Brun et Andard. Vous avez rencontré le maire. Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Alors, il faut savoir que le maire, on l'avait déjà rencontré le 4 mars. Donc, on lui avait bien expliqué, on avait pris le temps, on était resté une heure ou deux, bien expliqué pourquoi on faisait ces actions-là. Je pense qu'il avait bien compris. Et il nous avait dit notamment que sur les zones les plus menacées, il réfléchirait à trouver des solutions. Là, on l'a revu, on lui a redit qu'on était préoccupé. On lui a aussi communiqué le fait qu'on était toujours sur place à être vigilant, à faire le guet pour savoir comment la situation évolue. Comme quoi, si jamais ils ne tiennent pas compte du tout des nécessités de préservation, on sera là pour le dire et on sera là pour attirer les médias et l'opinion publique là-dessus.
Est-ce que ça questionne le fait que ce soit vous les gendarmes ?
Oui, nous, on a pas envie de forcément d'être les gendarmes.
Vous êtes les anges gardiens, les gendarmes des zones humides.
Les anges gardiens, tout à fait.
Mais en tout cas, vous qui vous attelez à cette tâche qui normalement devrait être...
Oui, mais je pense que c'est quelque chose qui est très sensible dans la population. Quand on leur dit qu'on vient défendre le vivant et quand on explique, particulièrement cette zone humide-là, alors là, cette zone humide, elle est symbolique, mais on défend toutes les zones humides. Mais celle-là, en plus, elle a une autre caractéristique qui est très importante, c'est que c'est un corridor écologique. Donc un corridor écologique, ça veut dire qu'on coupe là un passage, en fait, parce qu'il y a l'Authion qui est au sud, et après il y a le passage jusqu'à la Loire, enfin voilà. Donc il faut absolument qu'il n'y ait plus arrêter de faire des espèces d'îlots comme ça, séparés les uns des autres. Donc là, ce qui est privilégié, à la limite, c'est de faire un corridor urbanistique, enfin de relier urbanistiquement, et on devrait privilégier cette caractéristique est d'un corridor écologique, plutôt que vouloir réunir absolument Andard et Brun, voilà.
Petite question, si jamais dans le PLU, donc il y a eu ce recensement des zones humides fait par l'agglo, c'est ça, je ne me trompe pas ?
Par l'agglo, oui,
voilà,
tout à
c'est
fait.
Ça. Si jamais il y a eu ce recensement des zones humides, constructibles ou non constructibles, comment ça se fait que sur les zones humides, qui pour autant sont des sujets, et on vient de le démontrer, sont des lieux quand même à préserver, pourquoi c'est pas interdit dans le PLU ?
Mais parce que pour nous, c'est un sujet très important. Mais pour un aménageur, le sujet le plus important, c'est d'aménager. Hein ? Et puis pour un habitant qui veut se loger, le sujet le plus important, c'est de trouver un logement. Donc autour de la table, quand vous prenez une décision d'aménager ou pas, vous avez un certain nombre d'arguments. Et vous avez un certain nombre d'acteurs qui défendent des positions. Le drame, c'est que depuis des années, autour de la table, il n'y a personne qui représente la biodiversité. Personne.
Sauf vous.
Mais nous, on n'est pas autour de la table. Enfin, on essaye justement d'intervenir. Alors, non pas comme des gendarmes, parce qu'on est sous la tutelle d'aucune autorité, nous. Notre seule autorité, c'est notre motivation et notre engagement. Mais on voudrait effectivement donner de la voix, être les porte-parole du vivant. C'est-à-dire pouvoir, autour de la table, dire « Oubliez pas que les zones humides sont protégées. » Si vous regardez la loi sur la biodiversité, c'est pas une loi, comment ça je sais plus. Enfin, sur la biodiversité, en 2018, et le gouvernement a fait un texte. dans lequel il donne comme orientation le zéro artificialisation nette des sols. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un moment donné, si on veut stopper la chute de la biodiversité, au minimum, il faudrait arrêter d'aménager des zones naturelles. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en compte par le Parlement, par le législateur. Et en plus, moi je suis surpris, mais jour après jour, de voir comme l'administration a développé toute une série de dispositifs pour la protection. Dans ce document sur la biodiversité, il est expressément dit que les zones humides sont des zones à protéger, même si ce n'est pas interdit, hein, mais sont à protéger et donc il faut les protéger.
Donc vous voulez dire qu'il y a une sorte de dissonance entre le discours mis en place par, en tout cas proposé par la présidente de la République et le législateur et les réalités de terrain ?
Oui, de toute façon, on est toujours pris dans ces injonctions contradictoires. Hein, et c'est certainement pas forcément, ça c'est pas facile. Nous, on n'est pas là pour dire il faut pas se loger, et surtout pas. Et on est là aussi pour, même si c'est pas notre métier, dire il y a d'autres façons de faire, d'autres façons d'aménager. Même sur ces zones, si vraiment, au moins, ne pas sacrifier ces terrains, ne pas les bétonner, arriver à faire par exemple de l'habitat léger, sans fondation, de l'habitat partagé. Enfin, il y a des solutions. On sait faire. Donc, souvent, on nous oppose le fait que les gens, ils veulent leur petit pavillon avec leur petit jardin et leur garage. Mais en fait, parce qu'on ne leur propose pas autre chose. Et si on leur propose autre chose et qu'on les fait rêver sur autre chose, sur des maisons autonomes, sur des maisons partagées, sur... Là, on est toujours dans ce modèle, en fait, avec ces zones pavillonnaires, par exemple, où d'abord, qui rendent extrêmement dépendants de la voiture, donc c'est énergivore possible. D'ailleurs, on voit le nombre de voitures qu'il y a à Angers le soir et le matin, les gens se rendent... Donc, il n'y a pas, en plus, de projet vraiment viable sur l'agglo de transport en commun qui marche vraiment. Voilà, donc tout ça, c'est lié. Quoi.
En tout cas, je voulais revenir juste en deux mots quand même sur la situation à l'Orothion. Vous avez rencontré le maire une première fois en mars, vous l'avez re-rencontré une deuxième fois là. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises ? Qu'est-ce qu'il se dit finalement ? Il dit que, bon, vraiment, il va faire attention ? Est-ce qu'il dit, oui, je vais regarder ? Et finalement, il met vos recommandations à la poubelle. Comment vous le sentez ? Est-ce que vos mobilisations marchent ? Est-ce que elles sont nécessaires, vos mobilisations, mais est-ce qu'elles sont entendues ?
Alors, on est à la fois en l'aval d'un processus qui est le plan local d'urbanisme intercommunal, puisqu'il a été approuvé en septembre 2021, et on est ici en amont des différents projets. Et le projet cœur de polarité sud de Loire-Authion, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire, on n'en est qu'à la conception. Nous, on intervient le plus en amont possible pour dire, attention, c'est une zone particulièrement fragile et qu'il faut absolument protéger, et on viendra vous le redire jusqu'à ce que le projet soit mis en place. Donc, on porte, hein, encore une fois, la voix de tous les citoyens qui ont placé la protection de la biodiversité et même la sanctuarisation des zones humides dans leurs priorités. Angers-Loire Métropole, dans le cadre des assises de la transition écologique, ont fait une consultation et les enjeux 20 consultés...
Près de 70%.
Voilà, vous êtes au courant. À 70%, on dit que leur priorité, c'était la protection des espèces sauvages, des espaces sauvages, des bocages et la sanctuarisation des zones humides. Donc nous, on se sent complètement légitime. Complètement légitime, mais même à agir fortement.
À agir fortement. Et alors, en parlant de ça, vous avez... Donc, je fais un petit récapitulatif d'une autre affaire. Le plan local d'urbanisme d'Angers-Loire Métropole a permis, en partie, après vos mobilisations successives, de sauvegarder, et vous l'avez dit tout à l'heure, 34 hectares de zones humides. Pourtant, malgré vos actions et les mesures prises par l'agglomération, hein, un promoteur immobilier, European Homes, a détruit une zone humide à protéger. Une fédération d'associations qui s'appelle Sauvegarde de l'Anjou, dont vous faites partie, s'est emparée du dossier il y a plus de 7 mois. Plus de 7 mois. Ça en est où cette affaire ? Est-ce que des plaintes ont été déposées ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour rappel, donc, European Homes ont construit, sciemment ou non, en tout cas peut-être ils sont sûrement en train de plaider le fait qu'ils n'ont pas fait exprès, ont construit sur une zone humide qui était inscrite comme à protéger et sanctuariser par l'agglomération.
Alors en fait, effectivement, il y avait deux zones humides qui, dans le plan local d'urbanisme, était a priori sauvegardée. Donc nous, on ne s'est pas inquiété. Et en fait, le promoteur, juste pour faciliter son accès à la zone, a détruit une première zone humide en disant « comme ça, je passe plus facilement avec mes camions ». Voilà. Alors qu'il y avait possibilité de passer ailleurs, mais c'était un peu plus difficile. Et la sauvegarde de l'Anjou a été mise au courant, ils sont intervenus, hein, ils ont alerté, et le promoteur a récidivé quelques semaines plus tard sur la deuxième zone, qu'ils ont détruit aussi. Donc, on a l'impression qu'on a affaire à une société qui agit en totale impunité partout où elle intervient. Parce que, voilà, ben, ça n'a pas eu l'air de l'embêter beaucoup de faire ça, ils ont dû se dire, de toute façon, bon, pff, voilà.
En tout cas, ça donne pas confiance pour la situation à Laurotion.
Absolument.
Oui.
Absolument.
À Laurotion, enfin là, c'était à Bushman, je crois.
C'était à Bushman. En tout cas,
donc ça c'était à Bushman. Alors, c'était une petite zone humide, mais quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aucun.
Le geste est fou.
Le geste est fou, et ça veut dire que, en fait, il y a une telle habitude comme ça de se comporter de façon arbitraire avec ces zones-là, de la part de gros promoteurs, que on est mis devant le fait accompli après. Il y a aussi une autre menace, alors là, ce n'est pas encore officiel, mais il y a une étude qui est faite sur la zone, une zone en face de, enfin à Beaucouzé, en face de l'atoll. Mmh. Et là, ça concerne 34 hectares de zones humides ou au moins naturelles, enfin voilà. Et donc,
16.
Comment ?
16, en fait.
16, alors il y a 16 hectares et 34 hectares en tout. Mmh. Et donc, ça veut dire que, en fait, l'agglomération enfin, a annoncé qu'il réduisait le nombre d'hectares de zones humides à urbaniser, mais ça n'empêche pas qu'on peut ressortir des dossiers comme ça et se dire « Ah ben là, on va peut-être aménager 16 hectares de zone humide. » Pour le coup, là, c'est en face de l'atoll, ça serait plutôt pour des projets d'entrepôt, des choses comme ça, a priori. Bon, pour l'instant, c'est pas fait. Mais c'est un peu, ils lancent des ballons d'essai, on voit si ça réagit, quoi.
Alors, on voit bien que, en fait, les politiques et les privés se comportent comme si on n'avait pas à tenir compte de tout ce qu'il existe dans le contexte juridique et législatif pour protéger les zones humides. Ça veut dire que depuis des années, il n'y a pas de problème à faire ça. Quoi, hein. Donc nous, on est vraiment là pour dire, attention, il y a déjà des gens qui sont tout à fait favorables à la protection, il y a un ensemble législatif qui permet de protéger, et donc nous, on va intervenir pour que ça ne se fasse plus.
Vous intervenez et donc vous allez mener dans ce sens-là ce que vous appelez une action spectaculaire courant du mois de juin. Donc vraiment la mobilisation continue.
Absolument, oui.
Oui, tout à fait.
Il y aura d'autres mobilisations après aussi. Tant qu'il restera un mètre carré de zone humide à sauver, on sera par là.
Et je pense qu'il y a un certain enthousiasme d'ailleurs là-dessus quand on fait des actions, que les militants viennent. Et il y a un enthousiasme à être ensemble et de se dire qu'on est vraiment utile pour sauvegarder la nature. Voilà.
Merci beaucoup, Étienne et Denis, d'avoir répondu à nos questions. Pour ceux et celles et ceux qui seraient intéressés pour participer à cette action spectaculaire, je les invite à rentrer directement en contact avec vous via vos pages internet.
Merci
tout de suite,
on fait une
petite pause musicale sur Radio Campus Angers. Okay.
Le jour se lève. Comment te dire ?
Soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir.
Oublie-moi.
Petite fille du soleil, je garde en souvenir. Petite fille du soleil, nos délires, nos envies, notre rêve, viendront dormir dans les nuits. Mais déjà le jour se lève. Comment te dire, tout est fini. Petite fille du soleil, le matin n'attend pas. Petite fille du soleil, n'en pleure pas.
Petite fille du soleil de Charles Baptiste, il est exactement 18h28 sur Radio Campus Angers et vous êtes toujours à bord du pédalo. Tout de suite, on écoute un reportage Pensée Locale réalisé par nos collègues de Sun Radio à Nantes et évidemment, chauvins comme ils sont, on parle, et je vous le donne en mille, de boules nantaises.
Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Cette boule que vous entendez rouler, c'est une boule nantaise 2 kg, noire ou blanche, lancée magistralement ce jour-là par Yvonne, joueuse de boule nantaise, membre de l'équipe, ou plutôt comme on les appelle de l'amicale de procès à Nantes. Nous sommes le samedi 26 mars dernier au bar Au Petit Joueur, en pleine demi-finale de la première édition du concours de boule nantaise de Nantes Métropole, et l'amicale de procès est opposée à celle de la Collinière, deux des 12 amicales qui propose donc de s'adonner à la boule nantaise, jeu 100% local d'adresse et de stratégie, pratiqué à l'origine sur des terrains extérieurs, aujourd'hui dans les arrière-salles de café. Et la particularité première de ce jeu, c'est tout d'abord le terrain.
Un terrain de boule nantaise est comme un fond de cale de bateau.
Julien Oex, président de l'ADFR, l'amicale des deux fours réunis.
Donc, historiquement, on aime bien dire que ça vient de là, que les marins de Nantes jouaient dans les cales des bateaux, même si historiquement, ce n'est pas vérifié. Donc, c'est un fond de cale de péniche, donc un terrain incurvé de plusieurs mètres de long et de 3 mètres de large. Le principe du jeu, donc il y a 6 boules, on peut jouer à 2, 4 ou 6 joueurs. Ça ressemble à la pétanque au niveau des points, donc il faut se rapprocher d'un petit, comme le cochonnet à la pétanque, mais là on appelle ça un petit. Ça se rapproche du billard français, puisqu'en fait une fois que la boule est lancée, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut aller au fond, rebondir et revenir. Et ça ressemble aussi au bowling, puisqu'en fait il faut poser la boule et la pousser, on ne jette pas les boules.
On ne jette donc pas les boules. En effet, c'est ce qu'on peut voir écrit sur les panneaux autour du terrain à destination du bouliste avisé ou du visiteur curieux. Nous sommes quelques dizaines ce jour-là à suivre cette rencontre en demi-finale sous l'œil averti du président de la Fédération des Amicales de la Boule Nantaise, Philippe Jiquel. Lui, il se bat tous les jours pour que cette pratique centenaire perdure.
On est souvent ramassé dans les arrière-salles de café, donc... Et tous les gens n'y vont pas et puis on reste discret. Mais là, on a travaillé beaucoup avec les élus pour essayer de protéger, parce qu'on a un souci, c'est que la pression immobilière est telle sur Nantes que les jeux ferment. Et alors quand les cafés ferment, on n'a pas de recours. On a déposé un projet au niveau de l'UNESCO concernant la pratique, les pratiques immatérielles. On n'a pas de réponse, ça fait 7 ans. Par contre, on a eu la réponse intermédiaire au niveau du ministère de la Culture, puisqu'on est reconnu au patrimoine culturel nantais et national.
« La boule nantaise est ainsi donc inscrite depuis 2019 au patrimoine culturel immatériel de la France, ce qui signifie que les jeux et les terrains sont protégés. Quant au dossier déposé auprès de l'UNESCO, il est toujours en cours d'étude. Mais revenons-nous à notre tournoi où, sur le bord de ce terrain si particulier, on croise aussi Solange, elle-même joueuse et parfois arbitre. Elle a commencé la boule nantaise il y a 4 ans.
Dès qu'il y a un concours, je m'inscris de toute manière. Je pense que je fais tous les concours. Il va y en avoir 4 cette année. Il y en a un prochain, on appelle ça à la mêlée. C'est-à-dire, tous les gens s'inscrivent et on va tirer au sort. On ne sait pas avec qui on tombera. Donc ce sera 2 contre 2 et ce sera le hasard.
Là, sur la demi-finale Procès-Collinière, vous avez un petit pronostic ?
Procès-Collinière, je dirais plutôt Collinière, mais bon. Le pronostic du match d'avant s'est révélé bon, mais là je ne garantis pas.
Verdict, c'est bien la Collinière qui s'est imposée en demi-finale contre Procès. En revanche, la victoire finale revient, elle, à l'Amicale du Bowling, qui remporte donc cette première édition de ce concours Nantes Métropole. Et c'est chez eux qu'aura lieu d'ailleurs le prochain tournoi, le samedi 21 mai, au Café Les Filles du Marronnier, l'occasion de découvrir ce jeu typiquement nantais.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage donc en partenariat avec La Frappe, comme ils viennent de le dire, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Pour conclure cette émission en toute bienveillance et avec un beau rayon de soleil, Anne-Lise et sa capsule positive. Alors, beau rayon de soleil, tout doux, parce qu'aujourd'hui, on va jurer, on va insulter et on va dire plein de grossièreté à l'antenne de Radio Campus Angers.
Je suis Anne-Lise et avec Radio Campus, nous vous proposons comme chaque lundi un petit moment positif pour soi, pour se faire du bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits du juron et autres putains de grossièreté. Bloody hell.
Here we go!
On ne les aime pas, on les déconseille, on les interdit à nos enfants. Les jurons n'ont pas vraiment bonne réputation. Et pourtant, bien souvent, ils nous font du bien. Et c'est tout à fait normal, car figurez-vous, les gros mots ont de véritables vertus sur notre organisme. Lorsqu'un imprévu nous énerve, ou que notre capacité de résistance aux injustices en est à son max, ou encore que « putain de merde, j'ai oublié mes clés de bagnole au bureau », le juron sort spontanément comme un réflexe, naturellement. On peut le voir comme une réaction immature, une habitude pénible, et pourtant. Ça fait du bien de jurer. Cela accentue notre résistance à la douleur. C'est le professeur et psychologue du comportement Richard Stephens de l'université de Kiel qui a démontré cette hypothèse. Il a soumis 67 volontaires anonymes à une expérience. Il a tout simplement plongé leurs mains dans l'eau glacée. Il a constaté que celles et ceux qui juraient étaient capables de les conserver 2 fois plus longtemps dans une posture si inconfortable. Et donc ? Eh bien, le juron serait une décharge mentale, une façon de focaliser son esprit sur toute autre chose et de mieux faire face, physiquement, aux problèmes qui surviennent dans notre quotidien. Mais jurer, c'est aussi, et pour moi, surtout, le moyen de sortir la colère, la frustration, et ainsi de pouvoir la laisser s'exprimer, pour mieux la dépasser, la transformer. Je vous invite à réécouter ma capsule sur les émotions. Le psychologue américain Timothy Jay, du Massachusetts College of Liberal Arts, perçoit le juron comme le klaxon de votre voiture. C'est-à-dire quelque chose d'automatique qui est intégré en nous et qui permet d'exprimer librement toutes sortes d'émotions. De la colère, de la joie, de la surprise, du bonheur, des affects, tous réunis en une poignée de mots, tous sauf gratuits finalement, ou aléatoires. Selon le magazine Time, la catharsis associée au juron s'explique et se vit par des impressions pas simplement psychologiques, mais organiques. Non content d'altérer la douleur comme un analgésique, le juron provoque une poussée d'adrénaline. Il engendre une certaine excitation et augmente notre rythme cardiaque. En fait, l'injure s'empare de nos petites contrariétés, ce que l'on tait, ce qu'on enfouit au fond de soi, et il élabore une sorte de réponse émotionnelle à partir de tout cela, comme une délivrance. Exprimer de son émotion, c'est lui permettre de faire son boulot et pouvoir la transformer en quelque chose.
Mon asticolisse de pourris sale.
Surveille ton langage.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'on est des pourris sales.
About that part, but hostie de calis.
It's swearing. Hostie de pourris, c'est pourri pas mal. Mais calis de pourris, ça, ça commence à être vraiment pourri. Mais c'est pas si pire que ça, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a traité de pourri de calis de tabarnak.
Over the top pourri.
Bon alors, on s'entend, hein? Oui, au juron pour soi, mais pas d'insultes gratuites envers son prochain, évidemment. Ici, zéro intérêt, sauf que de faire monter la pression. Idem, on n'oublie pas de passer à autre chose après avoir exprimé son « what the fuck ». En sport, j'aime la petite phrase d'un coach avec lequel je travaille et qui parle, lui, de la « 10 seconds rule », la loi des 10 secondes. Tu exprimes ce que tu ressens, tu lâches l'énervement, la colère de ce putain de joueur qui t'a fait une méchante mise en échec pas du tout légale. Et puis après, eh bien tu te débrouilles comme tu veux, mais tu passes à autre chose. Tu reviens dans ton match, ta concentration. 10 seconds. Bon, en tant que préparatrice mentale, je travaille avec les sportifs à trouver les outils qui leur conviennent le mieux pour faire ce switch. Mais cette règle est pertinente, vraiment. La colère est exprimée, elle peut donc être évacuée pour revenir à l'important du moment. Il est évident que dans la situation que je viens de vous donner, taper sur la tronche de l'adversaire ne permettrait en rien de gagner plus facilement de match. Et puis tout simplement, bah ça fait du bien. N'avez-vous jamais ressenti ce soulagement après avoir juré un bon coup? La colère est une émotion humaine, normale, et faite d'ambivalence. Quand elle n'est pas exprimée, la colère peut conduire à la violence, contre soi, contre les autres, mais il est important de garder en tête qu'elle est d'abord l'émotion qui permet de se réparer face à l'impuissance, d'affirmer des limites personnelles et de se révolter contre le manque de respect qui pousse à s'unir pour affronter des injustices communes. Il n'y a donc pas de raison de craindre ou de réprimer l'émotion de colère. Allez, cette semaine, si la voiture qui vient de vous dépasser vous fait une queue de poisson, si vous marchez pieds nus sur un Lego, si une personne âgée vous dégage sans ménagement ni même un sourire de votre strapontin dans le bus, lâchez-vous! Nom de Dieu, putain de bordel de merde! Je vous souhaite une belle semaine.
C'était la capsule positive d'Anne-Lise et c'est la fin de ce premier pédalo de la saison. Oula, changement d'ambiance, place au jingle. Merci à Étienne beaucoup encore une fois pour la programmation musicale et donc Anne-Lise pour sa capsule positive. On se retrouve dès jeudi avec un nouveau reportage de la frappe. Mais nous par contre, on se retrouve dès demain sur le 103 FM. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas. Dans le pédalo comme dans l'optimiste, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.